nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, L'élu. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Musique originale de L'élu, Lionel Morzetti. Salon, avant le déjeuner, les deux mères sont assises. La mère de Sophia a parlé de la lettre à Charlotte. Charlotte est furieuse. Elle lui dit : de quel droit le pape enferme-t-il les jeunes filles ? Oh, pourquoi mon fils ne se marierait pas avec elle ? La mère de Sophia lui dit : c'est le pape. Il a ses raisons. Ma fille fera ce qu'il a décidé. Charlotte lui dit : pauvre petite. Pendant le repas, Sophia ne dit rien. Charlotte la regarde et hausse ses épaules. Après le repas, Sophia monte à sa chambre. Elle se change. Et va vers la sortie de la maison. Elle s'apprête à sortir de la maison, sa mère la voit et lui demande : où vas-tu ? Sophia lui dit : me marier. Et elle sort.
Pria plus tard, elle sonne chez Gilbert. La porte s'ouvre. Bonjour mademoiselle, monsieur vous attend au salon. Et il l'amène au salon. Au premier, frappe à une porte. Il a fait entrer. Gilbert est assis. Il se lève et va vers elle. Il lui dit, bonjour Sophia, vous allez bien? Elle lui dit, bonjour Gilbert, ça ne va pas du tout. Gilbert lui dit, je vous écoute. Elle lui dit, voilà Gilbert, j'ai besoin de toute votre affection. Et si vous m'aimez bien, vouloir m'épouser le plus vite possible. Gilbert est irrité, lui dit, écoutez, vous êtes tout excité. Vous allez venir vous asseoir. Il amène s'asseoir sur un divan. Et lui s'assoit près d'elle. Il lui dit, je vous remercie de ce que vous me demandez. J'en suis très touché. Mais je serais impossible de vous demander en mariage. Et lui demande, pourquoi? Il lui dit, parce que je vous aime bien. Mais pas assez pour me marier avec vous. Et puis, j'aime Nathalie. Elle se lève furieuse. Lui dit, c'est vos derniers mots? Il lui dit, oui. Elle lui dit, vous vous êtes moqué de moi? Oui. Elle le gifle. Et sort de la pièce. Gilbert se dit, elle comprendra plus tard. Et puis c'est l'essentiel qu'elle rompe. Je ne la reverrai plus. Elle oubliera. Sophia, une fois dans la rue, furieuse, elle ne veut pas retourner chez elle, voir sa mère. Elle se dit qu'elle va la mener et la faire enfermer chez les sorts. Non et non, je ne veux pas. Elle décide, c'est de quitter Paris. Elle se souvient du train, de la gare. Elle appelle un taxi. Et dit, gare de Lyon. Il y amène.
La grande cascade. On se continue dans la grande cascade.
Une fois à la gare, au milieu de la foule, du bruit, elle ne sait plus que faire. Elle va à un guichet. Guichetier demande, vous voulez aller où? Elle ne sait pas.
se tourne et voit le tableau d'affichage. Marseille écrit en grosses lettres. Elle dit « Marseille, votre carte ». Elle la lui donne. Sa mère lui a ouvert un compte une fois en France pour qu'elle puisse se distraire un peu. Il lui demande « C'est pour quand ?» Elle lui dit tout de suite « Il y a un train dans une demi-heure, première ou deuxième classe. » Elle lui dit « Première. » L'homme tape sur son écran, lui dit le prix, lui fait le retrait, puis lui rend la carte. Elle s'éloigne. Elle regarde sur le tableau quai C1. Elle s'y approche et attend. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire à Marseille, elle ne connaît pas la ville. Mais elle sera loin de sa mère et c'est essentiel. Elle a 18 ans et est majeure tout de même. C'est la première fois qu'elle se trouve dans une foule populaire. Ça la gêne un peu, tous ces gens, plus ou moins bien habillés, qui la dévisagent. Parce que dans son petit village, elle était tout le temps enfermée chez elle et ne voyait personne. À Paris, elle est entourée, mais entourée que de gens bien habillés, chic, beaux. Une demi-heure plus tard, elle entre dans un compartiment de première classe. Ce sont de vieux trains remis en service à cause du manque d'électricité, avec de vrais compartiments de deux banquettes, l'une en face de l'autre. J'aimais bien ces compartiments, mieux que les wagons où on a l'air d'être dans un avion. Dans un car. Un peu intimidée, elle s'assoit côté fenêtre face à la marche. Le train attend un peu. Les voyageurs vont et viennent dans le couloir à la recherche d'une place qui leur paraît mieux qu'une autre. Il est vrai que le trajet va durer longtemps, à peu près 10 heures si tout va bien. Donc, pour ce long, très long trajet, il faut être bien assis. Elle regarde avec anxiété les gens qui passent devant son compartiment en craignant que quelqu'un ouvre la porte et entre s'asseoir. Elle se voit mal passer 10 heures à côté et en face ou en face d'une personne inconnue. Elle voit à la vitre de la porte un homme grand, mince, le visage osseux, les cheveux noirs, le regard un peu dur, mais avec un sourire qui montre des dents magnifiques. Il porte un costume blanc, crème, il a ouvert la porte. Elle a un geste de recul. Il s'approche d'elle et lui dit « Cette place, ces places sont-elles prises, mademoiselle ?» Elle fait long de la tête. Elle pose sa valise en croco marron sur le porte-bagage qui est au-dessus du siège et s'assoit en face d'elle. Elle replie ses jambes contre elle. Le train commence à rouler. Elle sort petit à petit de la gare. Quitte Paris, puis c'est la banlieue. Il prend de plus en plus de vitesse, il commence à pleuvoir. Il est 15 heures. Elle se dit, mère ne va pas encore savoir que je suis partie. Personne ne le sait. Tu vas être libre, libre. Je suis déjà libre. Elle a beau se le dire, elle ne le croit pas. Elle se sent gauche. Elle a peur de croiser le visage de l'homme qui est en face d'elle. Elle ne sait où regarder. Elle a peur de croiser le visage de l'homme qui est en face d'elle. Après une demi-heure, elle ne sait que faire et se dit qu'elle aurait dû s'acheter quelque chose pour lire. Lui, l'homme aussi, ne fait rien. Tout à coup, j'allais à Marseille, vous aussi. Il a parlé, elle sursaute et se dit qu'elle doit parler pour ne pas paraître idiote. Elle dit, oui, à Marseille. Et lui demande, vous allez dans votre famille? Non, j'ai pas de famille. Il lui dit, ah, orpheline. Elle lui dit, non, pas de parents. Il lui dit, je comprends, moi aussi. Mais l'on s'y fait. Et qu'allez-vous faire à Marseille? Elle lui dit, vivre, c'est bien ça. Vous avez des amis? Non, personne, personne. Ah, pas d'amis, c'est bien ça. Vous êtes plus libre. La liberté, c'est bien. Elle lui dit, oui, n'est-ce pas? Il lui dit, moi aussi, je vais à Marseille. Là-bas, j'ai beaucoup d'amis. Et je peux même vous procurer un travail dans un hôtel. Elle lui dit, je vous remercie. Mais je dois vous avouer, c'est que je n'ai jamais travaillé. Il lui dit, aucune importance, on apprend vite le métier. Merci pour l'offre. Et se taise un moment. Elle se dit, j'ai déjà trouvé de l'aide. La fuite commence bien et le train file. Il lui dit, je vous amènerai à l'hôtel dès votre arrivée. À l'heure du dîner, ils sont allés au wagon-restaurant. Ils sont assis à une table et lui a dit « Choisissez tout ce que vous voulez, c'est moi qui vous l'offre. » Il lui dit « Je vous remercie, mais il ne faut pas. » Il lui dit « Mais si, il faut nourrir ses employés. Mais ne parlons pas de travail. » Elle lui dit « Je suis très heureuse que vous m'ayez trouvé du travail. Et je dois vous avouer, c'est que c'est la première fois que je travaille. » Et il dit « Ne vous faites pas de soucis. Surtout ne vous faites pas de soucis. » Elle a confiance en lui. Le trajet se passe bien. La nuit, elle a réussi un peu à dormir. Il lui a dit « Je vais sur vous comme sur un trésor. » À 1h du matin, il est sous coup. Nous sommes arrivés, mais tout engourdi. Il est quelle heure? Il dit 1h, venez, sortons. Il prend sa valise. Vous avez une valise? Elle lui répond. Non, ça ne fait rien. Vous avez votre carte? Oui, bien sûr. Il lui dit, sortons. Et ils sortent du compartiment. Il y a peu de monde dans la gare, il fait nuit et un peu froid. Et ils sortent de la gare. Il lui dit, je vais prendre un taxi. Elle lui demande, nous allons où? À l'hôtel, voyons. Et il monte dans un taxi. Il dit, hôtel, terme. Et le taxi démarre. Elle lui demande, j'espère que l'hôtel n'est pas trop cher, ne faites pas de soucis, je m'occupe de tout. Le taxi file dans la ville endormie.
La grande cascade, on se continue dans la grande cascade. C'est la dernière.
taxi s'est arrêté dans une rue sale devant un immeuble lugubre, étroit et marqué dessus en lettres lumineuses « Hôtel Terme ». Il dit « C'est ici, nous allons descendre ». Elle trouve l'endroit lugubre, mais elle ne peut rien faire à cette heure que de suivre le monsieur.
Porte du taxi. Il la tient bien fermement par le bras. Ils entrent dans l'hôtel. Le hall d'entrée, ou plutôt un hall d'entrée petit et sale, peint beige. À la banque se trouve une grosse femme, cheveux noirs, tête ronde, visage très maquillé, le regard dur mais qui se veut gai. Il va vers la femme. Quand elle le voit, elle lui dit « Ah, c'est vous, M. Armand. Comment allez-vous » Il lui dit « Je t'amène celle-là pour remplacer le 15. » Elle lui dit « Vous la gardez bien en main ?» Il lui dit « Elle m'a déjà coûté assez cher, un repas le taxi. » La femme soupire et dit « Enfin, n'êtes pas venu, bredouille, de votre voyage de Paris, une parisienne. » C'est bien. Sophia dit, je suis italienne. La femme la regarde durement et lui dit, ici, c'est la spécialité des parisiennes. Et tu es parisienne, compris? Armand demande, tu me donnes la chambre du 15? La femme la lui donne. Armand dit à Sophia, viens, on monte. Elle le suit. Près des escaliers pour aller jusqu'au deuxième étage. Arrivez au deuxième étage et suivez vos couloirs. Couloirs qui sent la javel, le parfum bon marché. Il ouvre la porte de la chambre 15. Entre. Elle entre. La pièce est petite, allumée avec une ampoule au plafond. Il y a un lit à deux places en fer avec une couverture rouge. Une table de nuit en bois avec une lampe de chevet en forme de fleur, une armoire à une porte sans âge, un bavard ravant rouge. Le sol, c'est du lino beige sale. Il y a une fenêtre, des volets sont fermés. Elle regarde tout ça avec dégoût. Il lui dit, c'est ta chambre, je vais te laisser. Demain, je viendrai te voir et nous discuterons. Allez. Et il la quitte. Elle entend qu'il a fermé la porte à clé.
Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, la troisième époque de Violence et Crépuscule, l'élu, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. Musique originale de l'élu Lionel Morvetti.